Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons pour nos dérapages menaçants dans des eaux toujours plus remplies de requins frénétiques. Nouveau numéro donc de notre podcast en cette année 2021 où les projets de films de requins semblent s'accumuler. De Apex Predator à Great White, à The Meg 2 en passant par Shark Island, les projets n'arrêtent pas de se bousculer et le requin va être encore très sollicité. On est déjà à 80 films mais je peux vous dire qu'on dépassera très largement les 100 en sachant qu'il nous en manque encore un bon paquet de films plus anciens dont Les Dents de la Mer, dont The Shallows. Bref, on a encore du pain sur la planche, et même si j'ai un peu ralenti le rythme de Shark Parade ces derniers temps, notamment à cause de pas mal de travail sur Nanarland, eh bien, notre podcast reste toujours le phare dans la nuit qui vous guidera vers des eaux remplies de films de requins à voir, et qui vous permettra d'éviter les écueils de production moisie qui encombraient naguère les étagères des vidéoclubs et qui maintenant s'enfilent comme des perles dans les services de streaming et de vidéos à la demande. Ne me remerciez pas, c'est de bon cœur que je joue ce rôle d'éclaireur défrichant pour vous dans le maquis des films de requins. Alors je vous rappelle quand même vite fait le principe de l'émission, on a choisi deux films de requins que nous avons tirés au sort dans notre boîte à requins, et nous allons les analyser avec toute la rigueur pédagogique qui s'impose pour en déterminer les capacités squalographiques, c'est-à-dire cinématographiques et squalesques, l'originalité, l'histoire, les personnages, la réalisation, l'ambiance, la qualité des requins, leur attribuer une note de 0 à 3 selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce qui nous donne une note sur 18. Nous rajoutons 2 points d'appréciation personnelle, nous avons au total une note sur 20 qui nous permet de reclasser le film dans une des 5 catégories classiques. Au-dessus de 16, nous avons un incontournable, ils sont très rares. Au-dessus de 12, nous avons un bon film qui peut se laisser regarder pour une après-midi pluvieuse. Au-dessus de 8, nous avons un film routinier, mais à partir de 10, voilà, l'amateur de requins pourrait y retrouver quand même quelques plaisirs. De 4 à 8, on est dans le film nul, et en dessous de 4, on est dans la fuir, on ne peut pas vous le conseiller. Alors, dans notre escarcelle, nous avons 2 films, l'un d'ailleurs extrêmement récent, puisqu'il est sorti en avril 2021, il s'agit de Virus Shark de Mark Polonia. Et un second film, Robo Shark de Jeffrey Scott Lando, sorti en 2015 pour la chaîne Sci-Fi. Alors, prêt à jeter à l'eau ? Ah oui, j'oubliais, il n'y a pas de parole sur cette bande-annonce. Mais je m'en voudrais de ne pas vous laisser profiter de cette musique parfaitement originale. Mais je le savais, c'est sûr, toute cette question de Covid-19, c'est une gigantesque escroquerie. C'est un complot gouvernemental mondialisé pour nous cacher la vérité. L'épidémie qui nous frappe à l'heure actuelle est véhiculée par des morsures de requins australiens avec des boutons multicolores sur la tête. Et les gens qui sont touchés par le virus SharkVid 1, eh bien, ils se transforment en espèces de zombies agressifs, avec des looks de monstres échappés de la cantina de Star Wars, et tout ça pour provoquer l'apocalypse. Moi, je vous le dis, c'est moche tout ça, hein. Et pour avoir le film, je peux vous confirmer, c'est moche tout ça, au scénar et à l'image. Heureusement, je vous rassure, le gouvernement a su agir à temps. Enfin, le gouvernement américain, pas le nôtre, faut pas rêver. Et ils ont envoyé une équipe de scientifiques dans une base sous-marine pour étudier les requins infectés. Et là, suite à un accident stupide que je détaillerai pas ici, eh bien, certains membres de l'équipe se font infecter et la maladie se propage dans la station. Et en plus, ça tombe mal, hein, parce que la maintenance signale qu'il y a des fuites du genre Comac quand même, hein. De là que la base soit en train de tomber en morceaux, y a pas loin. Bref, nos héros sont en train d'essayer de sauver l'avenir de l'humanité dans un bâtiment en train de s'effondrer et en étant en plus lâchés par leur autorité de tutelle. Dans l'éducation nationale, on appelle ça un lundi. Quand ça veut pas, ça veut pas.
Are you okay, Christy?
Just a little bump on my head.
This place has gone mad. Anna's creeping around the halls. Gregory's in a mood.
Gregory betrayed us. He took off with the antidote. He's going topside. Anna's infected. I don't know how, but she is.
It gets worse than that, I'm afraid.
How much worse?
The Cygnus has about 30 hours of life left in her before she implodes. But it won't matter because all the oxygen will be gone in less than 8 hours.
Why did you have to tell me that?
We need to evacuate.
Oh, Duke, we have to get Duke. Okay, we'll get out of here.
Virus Shark, tourné en 2020 et sorti en avril 2021, profite très opportunément de la situation actuelle pour nous offrir une production de grand standing signée de l'ineffable Marc Polonia, dont on avait déjà parlé dans le Land Shark de l'épisode 28. Et avec Polonia et ses budgets à 4 chiffres maximum et son tournage en 2 semaines, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre. Alors, Polonia, il y a de l'envie, il y a de la passion pour tourner des films, ça je lui accorde. Hein. Mais le problème, c'est quand on regarde le résultat à l'écran, on est sur un mixte entre Peur Bleue, Les Dents de la Mer, Contagion, et le spectacle de fin d'année de l'école primaire Jacques Prévert de Palaiseau. Et encore eux, après le spectacle, ils ont eu droit à des madeleines et du manga. Parce que oui, on a un film semi-amateur, tourné avec des moyens misérables, dont l'affiche et le titre sont de très loin les éléments les plus réussis et les plus classieux. Faut dire aussi qu'avec son rythme de production, Polonia, il envisage le cinéma façon carpet bombing. En gros, il tourne plus vite que j'ai le temps d'enregistrer mes épisodes de podcast. C'est bien simple, rien que pour 2020, il a fait 4 films, dont 2 films de requins. Amityville Island, oui, je vous laisse réfléchir 5 minutes au jeu de mots, ça semble mélanger maison hantée et requin, et Shark Encounter of the Third Kind, et avec des requins, des extraterrestres, et il arrête pas, hein. Et quand je vous dis qu'il arrête pas, ben c'est qu'en 2021, on est à la fin avril, il a 4 films de sortie depuis le début de l'année sur sa fiche IMDb, et 3 autres en tournage ou en post-production, dont un Sharkula, qui semble être la suite de son Sharkenstein de sinistre mémoire. Bon, c'est bien simple, j'ose même plus faire F5 pour essayer de rafraîchir sa page IMDb, de peur de voir apparaître d'autres films. Alors c'est sûr qu'avec les productions Polonia, bah c'est un petit peu comme avec les productions Netflix. Étant donné qu'ils sont obligés d'en sortir beaucoup, il y a une sorte de médiocrité permanente qui s'installe, et puis, parfois, de temps en temps, un truc qui sort un peu de la torpeur. Ben celui-là, c'est pas un des pires que j'ai pu voir ces derniers temps. Ah, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, c'est pas un bon film. C'est juste que celui-là, j'ai déjà pas eu envie de m'ouvrir les veines en le visionnant. Moi j'appelle ça un progrès avec les films de Polonia, mais bon. Je sais pas si c'est la légèreté du cadre, le fait qu'au milieu de l'histoire, on change légèrement l'intrigue, ou bien qu'il y a une un peu plus grande variété dans les effets spéciaux, mélange toujours de marionnettes en pluche, de masques faits artisanalement sur des acteurs pour faire croire qu'ils sont morts, de gore outrancier, mais aussi de quelques effets spéciaux visiblement faits sous un After Effects premier prix, mais suffisamment variés et suffisamment rigolos pour attirer un petit peu l'œil. En tout cas, voilà, ça joue toujours aussi mal, c'est toujours aussi confus, personne n'est vraiment professionnel. Et puis même que ça soit particulièrement bien écrit, hein, c'est pas du Sharkspire non plus. Hein. Celui-là, c'est cadeau, messieurs les producteurs. Il est pour vous, vous prenez, vous faites le film. Je ne prendrai que 10%. En tout cas, même s'il y a parfois encore des tunnels de dialogue, il y a un certain rythme. C'est déjà ça, et ça fait qu'on s'ennuie un tout petit peu moins qu'à l'accoutumée. Mais bon, le reste, c'est quand même 2-3 comédiens en surjeu, et d'autres qui ont l'air complètement hébétés dans le film. Mention spéciale à Jamie Morgan, qui interprète la scientifique héroïne du film, et qui joue de façon catastrophique, mais qui a l'air tellement contente d'être là, qui sourit tout le temps, même dans les situations qui sont censées être super dramatiques, qui fait que ça rajoute globalement au capital sympathie du film.
Well, 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 what do we have here? Today's our lucky day.
Please, I need your help. I need to get to someone in authority. There's no authority. No help for you.
What are you looking at? She's clean! She's clean!
I'm from an underwater research base. We found a cure for the virus. I just need to get to any officials.
Consider us officials now. This is Jojo, I'm Mace, and that's garbage.
Come on, give that back.
Oh. I'll take that. No one tells Mace what to do. Lesson learned. I'll hold on to these.
Where am I?
You're with us.
The whole world has gone to hell. People and places don't matter anymore.
Alors un des éléments assez rigolos du film, c'est son caractère très bricolo. C'est par exemple la première base maritime que je vois intégralement construite en placo avec des parpaings. Et pour cause, le film a été tourné dans une école. C'est bien simple, au détour d'une scène, on aperçoit même des dessins d'enfants accrochés au mur. Polonia rivalisant rapidement d'imagination pour essayer de cadrer au maximum les couloirs ou les locaux techniques et de nous faire passer ça ou des salles de bio pour des laboratoires ou pour des bases militaires super équipées avec la piscine de l'école qui sert à garder les requins en peluche. C'est de la débrouillardise et ça je respecte. Autre problème, son école, ben, il a pu y tourner que le week-end et visiblement il n'a pas pu y passer d'énormément de week-ends. Probablement aussi parce qu'il avait d'autres films à tourner. Donc s'il fait que, au milieu du métrage, eh ben, on change radicalement d'ambiance et on quitte l'école pour revenir sur la terre ferme, dans un monde post-apocalyptique en fait qui est réduit à une maison dans les bois et à 2-3 monstres qu'il a recyclés à ses propres productions de SF, avec des yeux globuleux et des costumes en sac de patates, en gros Star Wars version Wish, et là on navigue entre survivants redneck dégénérés, monstres qui errent dans les bois et complots gouvernementaux. Le tout filmé au bord d'un lac, ce qui permet de temps en temps de refaire sortir un des requins en plastoc avec toujours ses diodes lumineuses sur la tête qui clignotent. C'est fabuleux. Bref, ça sent son scénar improvisé au jour le jour, ça incohère pas mal, et comme la subtilité n'est pas la qualité première de l'ensemble, eh bien on regarde ça un petit peu hébété, dans cette atmosphère cotonneuse toujours un peu particulière de l'Ultra-Z, mais au moins contrairement à pas mal de productions du même genre, il se passe des trucs. Ça se fait attaquer, on se tire dessus, il y a des monstres avec des masques en papier crépon, le tout se terminant par une fin ouverte qui appelle franchement une suite. Enfin, quand je dis que ça appelle une suite, faut pas te sentir obligé, Marc, hein. Je préfère te prévenir tout de même. Alors, ce qui est marrant, c'est que s'il mettait un petit peu plus d'effort dans ses films, s'il les faisait pas aussi rapidement et en y mettant un tout petit poil de soin en plus, en étudiant des trucs du style l'étalonnage, la construction des plans, voire même la cohérence du scénario, eh ben, ça pourrait presque être réussi. Ça pourrait presque se hisser au-delà du simple Z, mais c'est pas ce qui intéresse Polonia. Ce qui intéresse, c'est de faire ses petits films avec ses requins en mousse,
ses potes, ses effets spéciaux artisanaux.
Il tourne toujours les mêmes films avec toujours les mêmes personnes. Témoin à la musique, Greg Stanina, son Zico attitré, qui nous offre une bouillie synthé assez interchangeable, avec des nappes fortement inspirées des Dents de la Mer, d'un peu de Carpenter. Ça passe toujours bien et ça coûte pas cher à faire. Il tourne frénétiquement, mais faut aussi qu'il alimente son petit business, car ça fait un petit bout de temps qu'il est dans le game et qu'il a monté sa société SRS Cinéma, qui non seulement sort ses propres films à cadence soutenue, mais en plus sert de distributeur à plein de productions amateurs venues d'un petit peu partout des États-Unis, voire d'au-delà. Il réalise des Blu-ray artisanaux, il arrive à négocier avec des plateformes de streaming des packages avec plusieurs films à tout petit budget, c'est comme ça que vous pouvez parfois retrouver ses propres films sur Amazon, y compris chez nous. Et ben c'est un business qui a l'air de marcher pas mal, son catalogue est assez bien rempli, et il ne fait pas mystère d'être un petit peu la version Z de The Asylum, avec ses propres mockbusters de Dune, comme Dune World, ou bien des films de kaiju amateurs japonais qui sont retitrés et qui sortent opportunément au moment où on a Kong contre Godzilla. Voilà, quoi qu'on en dise, ça marche, un business plan de passionné, et ça n'a pas complètement le cynisme de The Asylum ou pire de Tomcat. On est avec là des passionnés qui s'amusent à faire des films à petit budget, à suivre la mode, à en sortir 10 par an, et puis ben, de produire les films des copains. Le problème, moi, c'est que ça me remplit ma boîte avec des films que j'ai pas envie de voir, mais que je vais être obligé de voir. Je vais vous dire, je vais terminer Shark Parade en EHPAD, hein, si ça continue à sortir des films à cette cadence-là. Donc voilà pour Polonia, Virus Shark, faut-il le voir? Moi, je serai vous, je prendrai les gestes barrières, par prudence. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous exposez à n'importe quel virus. J'espère que vous êtes vacciné pour ce genre de film.
If we find authorities,
what do you propose we do?
We have the serum, and we have her. Both are good bargaining chips.
I want $1 million.
Oh, that's all?
We can have anything we want, you idiots. Money is worthless. What we want is power. Power to rule over everyone.
So, what's the plan, Mace?
We still have the raft by the beach. We can paddle out to the old research base and see if anyone is still there. Somebody has to be there, and we deal with them.
Why not walk?
Too many marauders.
You're forgetting about the sharks.
Hey, what's this about sharks?
People aren't the only ones affected by this virus. Sharks are too, and it makes them blood hungry. When I washed ashore, I saw a swarm of them.
maybe walking ain't such a bad idea. I never did like the water.
We'll take the boat. It's safer that way, and I'm not afraid of no sharks.
It's your funeral.
Alors, les qualités squalographiques de Virus Shark. L'originalité, c'est insuffisamment acquis. Des requins porteurs d'un virus mortel qui clignotent comme des sapins de Noël sous les eaux. Ma foi, c'est déjà un petit peu une idée originale. Après, on est dans le film de contamination. C'est du classique, ce qui fait que l'histoire, elle est complètement non acquise. La contamination par elle-même est complètement invraisemblable. On sait pas vraiment d'où elle vient. Et puis, comme il manque de décor en plein milieu du film, bah, il passe complètement à autre chose. Le résultat, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe avec certitude, un peu comme si on nous présentait un monde dans lequel les personnages vont errer. Tiens, les personnages, c'est non acquis, hein, ils sont très mauvais, ils sont surjoués avec application. Donc là, il y a deux catégories, comme je le disais, hein, soit ceux qui vont en faire des caisses, parce qu'ils savent qu'ils jouent dans un mauvais film, et puis ceux qui jouent mal, parce qu'ils savent pas vraiment qu'ils sont dans un film. La réalisation, elle est insuffisamment acquise. Marc Polonia, il en a fait des films, mais s'il n'est pas complètement manchot, et s'il a de temps en temps quelques petites idées, globalement, quand tu fais un film en 4 semaines, et en gros tourner le week-end avec les copains quand ils étaient là, forcément, tu peux pas avoir un résultat d'une qualité extraordinaire. L'ambiance est insuffisamment acquise, bon, il y a quand même un gros coup de mou au milieu, même s'il y a pas mal de scènes assez rigolotes, ne serait-ce que par le fait que les gens surjouent. Les requins sont eux-mêmes insuffisamment acquis, mais au moins ils ont le charme de poupées en caoutchouc lancées dans une piscine, et de quelques images de synthèse un peu plus variées qu'à l'accoutumée, mais qui ont visiblement été récupérées sur des banques d'images, et sur lesquelles on a rajouté, comme je vous disais, des espèces de boutons lumineux qui clignotent, et qui sont censés simuler la maladie. Bref, on se retrouve avec un film qui vaut 4, qui est nul, c'est déjà pas à fuir, c'est déjà beaucoup, et peut-être parce que je suis bien luné en ce moment, je lui rajouterai un demi-point, oui, je vais jusqu'à 4,5. C'est pas un film exceptionnel, mais dans la galaxie des Ultra Z, celui-là m'a arraché 2-3 sourires. Je sais, je me ramollis, je commence à devenir indulgent avec ce genre de production. Je dis pas que je le regarderai une deuxième fois dans les 15 à 30 ans qui viennent, mais voilà, ça m'a passé le temps, et puis je peux pas enlever Apollonia sa sincérité. Est-ce que notre robot shark qui nous arrive en deuxième séance va bénéficier de la même mansuétude ? Eh bien, nous allons voir ça.
Whatever it isn't friendly. Starbucks, Space Needle, hipsters, Microsoft, Nirvana.
You mean the poop deck?
Triple venti, half sweet.
Run that, careful.
C'est marrant, celui-là j'étais persuadé de l'avoir vu en français à sa sortie, et puis non, visiblement, il est pas venu chez nous. Impossible de mettre la main sur autre chose qu'un DVD anglais. Alors, je pense que sincèrement, si j'ai ce faux souvenir, c'est parce que j'ai bien aimé ce film. Un requin qui tient bien la route, franchement, je vais pas essayer de vous le vendre comme un des grands chefs-d'œuvre du cinéma, hein, c'est pas Paddington 2, mais non, on est un cran au-dessous niveau Citizen Kane. Non, je plaisante. Vous savez que je suis pas un esthète super exigeant, hein, et film idiot, mais correctement troussé, ça fait le pâté. Et ben là, le film, je te dis oui, je te dis viens dans mes bras, que je te fasse un poutou. Enfin, pas trop près quand même, parce que d'ici qu'il y a des lasers qui te sortent des yeux. Bref, on a un film plaisant. Et dans la catégorie des comédies avec des requins, eh ben c'est plutôt pas mal. Tout commence quand un vaisseau spatial déboule dans notre orbite, probablement pour nous demander de l'argent, on connaît les extraterrestres. Et celui-ci balance aussitôt, au petit bonheur, quelques sondes qui tombent un peu partout, notamment dans le Pacifique. Et dont l'une se fait bouffer immédiatement par un requin. Ni une ni deux, le squale se transforme en robot. Oui, je sais, le scénariste, s'il a été payé plus de 10$ et un pack de 6 Bud Light, c'est déjà trop cher. En tout cas, un bien bel animal, rouge et blanc, ou rouge et chromé, selon les plans. Et là, c'est toujours le même problème quand on confie ça à des équipes d'effets spéciaux bulgares payées avec des tickets restaurants. Avec donc des grands yeux rouges phosphorescents, des ailerons en titane, des dents comme des scies circulaires, et puis la capacité de tirer avec des mitrailleuses intégrées. Un requin qui, tout au long du film, va un peu changer de taille aussi, selon les besoins. Bon, on n'est pas là pour niaiser, on est venu voir un robot requin, et celui-ci commence par bouffer un sous-marin. Et puis ensuite, il se met à se rapprocher de la côte et va attaquer Seattle.
Yorker was my first command, Captain. What's the bearing of the target?
Bearing 079, sir.
Seattle. Starbucks, Space Needle, Hipsters, Microsoft, Nirvana.
Sir?
We'll make our stand in Seattle.
S'engouffrant dans le réseau de canalisation et d'eau usée de la ville, eh bien notre requin va apparaître de ci de là pour croquer les passants, pour mettre la misère aux militaires, et finalement peut-être pour remplir une tâche plus grande. Surtout que, grâce aux réseaux sociaux, il devient littéralement une star. Pour découvrir ce que veut le requin, nous suivons une ancienne Miss Météo devenue journaliste, accompagnée par sa fille, et dont le mari est en plus le responsable des eaux usées de la ville de Seattle. Et si le robot requin ne voulait que communiquer ? Bon, voilà une production qui a été confectionnée selon le cahier des charges des productions sci-fi, mais avec un soin un petit peu plus grand, apporté par des routiers du genre, Jeffrey Lando et Philip J. Roth, qui sont dans le business depuis 30 ans. RoboShark d'ailleurs n'hésitant pas de temps en temps à être un peu méta, puisque au détour d'un plan, on a carrément des personnages qui se demandent s'ils sont pas dans une production sci-fi. Le film se déroule en Seattle, il n'hésite pas à se moquer du côté hipster de la ville, avec par exemple des livreurs connectés, ou une attaque dans un Starbucks, et même l'apparition d'un sosie officiel de Bill Gates qui prend la tête des opérations. Le film brocarde pas mal tout le côté réseaux sociaux et vouloir tout filmer, n'hésitant pas à montrer des victimes qui se dépêchent d'uploader leurs vidéos sur YouTube avant de se faire bouffer. Bon, ça reste quand même une production relativement fauchée tournée en Bulgarie, ce qui fait que si on est un petit peu attentif, on voit quelques panneaux en cyrillique en arrière-plan, notamment dans la scène du centre commercial. Mais il y a du rythme, des personnages qui sont gentiment caricaturaux sans que ça soit trop grossier, même s'il y en a vraiment qui cabotinent beaucoup. Comme notre héroïne, par exemple, qui tente de se trouver une légitimité de journaliste, alors qu'en fait elle était connue comme la fille rigolote à la météo, et ce qui nous vaut quelques petites scènes de rivalité avec une autre journaliste évidemment blonde et arriviste qui se dispute la caméra pour pouvoir filmer le requin robot. On a aussi les rivalités entre les services de fonctionnaires de Seattle, sur un petit côté The Office, et des militaires complètement stupides, avec un général complètement mégalomane et paranoïaque qui ne rêve que de bombarder Seattle parce qu'il aime pas Seattle. Bref, un film plutôt généreux dans la bêtise assumée, même s'il y a quelques plages de dialogue un peu longues, un petit peu de ventre mou au milieu du film, on a quand même un ensemble qui est relativement enlevé pour qu'on ne s'ennuie pas trop. C'est plutôt rare de le dire dans ce genre de film, mais on a carrément des séquences de comédie qui sont réussies en pur terme de mise en scène. Oui, je sais que parler de mise en scène pour une production sci-fi, ça fait curieux, mais j'aime beaucoup cette scène où les militaires investissent comme des bourrins un centre commercial où le robot requin est apparu, en montant et en descendant les escalators, en faisant hop 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 hop, et en s'interrompant juste le temps de déchiffrer leur chemin sur les panneaux qui montrent le plan du centre commercial. Proportion gardée, on aurait une scène qui n'aurait pas dépareillé dans un Flying Circus. Le film rebondit d'ailleurs assez bien aussi en brocardant la frénésie avec laquelle l'affaire du robot Shark va un petit peu se répandre sur les réseaux sociaux. On a un clip show avec fond de musique rock où on voit à partir d'une première vidéo YouTube la frénésie se répandre sur les réseaux sociaux. On part de commentaires style « Oh my god, c'est un requin !» Ah non, c'est un complot du gouvernement, avec la volonté d'asservir les masses à la société du spectacle. En passant par « Seattle se fait attaquer par un poisson robot, c'est le moment d'acheter », voire même certains commentaires qui évoquent des rêves humides et érotiques à partir du requin. L'équipe à la barre du projet, c'est des habitués du film de genre à petit budget, et ils n'en sont pas leur premier film d'attaque animale tourné en Bulgarie. Que ce soit le routier Philippe Givros, dont on avait vu le Shark Hunter dans l'épisode 8 de l'émission, et qui a une carrière longue comme le bras de petites productions opportunes, mais toujours avec un petit soin qui le place un cran au-dessus de la routine habituelle de ce genre de film, ou Jeffrey Scott Landau, un ancien monteur responsable des effets spéciaux polyvalents, qui nous a fait des Ghostquake, des Tornado Apocalypse, des Alien Incursion. Des gens qui savent ce qu'ils font, qui le font vite, mais qui le font plutôt bien. Entouré de spécialistes, que ce soit les techniciens, que ce soit les équipes bulgares de construction de décors, que ce soit la musique en dehors évidemment du riff très synthé-rock qui sert de générique, le reste de la soundtrack est signé Claude Foissy, un prolifique compositeur canadien de télé qui a plus de 200 titres à sa composition et qui fait toutes les musiques de raccord de façon très propre, qui ne dépareillerait pas dans un épisode de série télé pour ados Netflix, mais qui fait efficacement ce qu'il doit faire. Le film multiplie les clins d'œil à d'autres œuvres. Je vous ai déjà parlé un petit peu du côté Monty Python, mais il y a du Robocop, il y a du Rencontre du Troisième Type, il y a carrément du Docteur Folamour dans le final. Et puis comment ne pas apprécier un film qui se termine avec la promesse d'un futur chihuahua robot venu de l'espace. Qui a dit qu'il n'y avait plus d'imagination au cinéma?
Ok, then maybe you guys shouldn't tell me anything.
You're already in, Rick. Deep.
Deep?
Deep.
Deep?
You heard of force majeure? Well, force majeure, Rick, is when you get intel that an alien starship... That's right. An alien starship has launched something at us. And that thing has taken out a United States nuclear submarine. 168 men. Gone. And that's what we're here to destroy.
Wow. Are you sure?
Dead sure. We're the United States Navy. We don't make mistakes. We're gonna kick its alien shark's ass back to whatever damn planet it came from.
Sir.
Alors, quelles sont les capacités scolographiques de RoboShark? Eh bien, l'originalité, on peut dire qu'elle est en cours d'acquisition. Bon, déjà, le requin, il mange une sonde extraterrestre, et puis après, il est capable de communiquer par les réseaux sociaux à travers des emojis. Le tout pour se lancer dans un retour à la maison façon E.T. Alors, l'histoire, elle, est peut-être insuffisamment acquise, parce que, en dehors de tous ces éléments épars, plutôt réussis, plutôt originaux, eh bien, la sauce est plutôt classique, les méchants militaires, la famille qui se recherche, les rivalités entre journalistes, c'est déjà mille fois vu, et on sent vraiment que c'est un canevas pour dérouler des scènes choc, pour dérouler des attaques un petit peu partout. Les personnages sont en cours d'acquisition, alors ça cabotine beaucoup le général, les journalistes. Mention spéciale à Max Rippey qui incarne Rick et qui ferait passer Rob Schneider pour un acteur shakespearien tellement il en fait des caisses grimaçant à chaque scène, dans le rôle du pauvre type qui se retrouve coincé au milieu de choses beaucoup plus grandes pour lui. L'ambiance, elle est en cours d'acquisition. On s'amuse, il y a un petit ventre mou au milieu, il y a un petit temps mort, soit, mais globalement, les attaques sont fréquentes, on a quand même des personnages qui sont assez rigolos, des changements de ton, des changements de rythme. La réalisation, elle aussi, est en cours d'acquisition. Elle est efficace et fonctionnelle. Jeffrey Scott Landau, c'est pas un foudre de guerre habituellement, la plupart de ses films sont quand même assez plans plan, là on est un peu dans le dessus du panier, peut-être aussi parce que le scénario de Phil Giros est un petit peu plus solide. Le requin, eh bien, il est en cours d'acquisition. Alors, il fait fait qu'au dernier degré, hein, ça soyons clairs, avec son design blanc chromé, avec ses rayures rouges, ses yeux rouges, mais on lui enlèvera pas quand même qu'il a un look qui sort de l'ordinaire, et puis surtout qu'on le voit beaucoup. Le film n'est pas frileux pour nous montrer le requin, et globalement les attaques se succèdent à un rythme soutenu, ce qui n'est pas toujours le cas de ce genre de film. Ce qui nous fait un total de 11. J'ai passé plutôt un bon moment, donc je lui rajouterai son petit point points et on arrive à un 12 sur 20, on rentre dans les bons films, dans les bonnes comédies squalesques. C'est vraiment dommage qu'il n'ait jamais été traduit, qu'il ne soit jamais arrivé chez nous, parce qu'en plus avec une petite VF aux petits oignons, ça aurait donné vraiment un plaisir coupable du samedi après-midi. Comme quoi on peut encore avoir des bonnes surprises. Et en matière de bonnes surprises, j'espère que la boîte à requins va m'offrir cette fois-ci quelques tirages de haute volée. Bon allez, que va nous offrir la boîte à requins? Ouija Shark, Patrick Scott alias Brett Kelly en 2020.
C'est impossible en fait! Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr!
Mais c'est sûr, faut que je fasse quoi pour avoir les dents de la mer? Mais Brett Kelly, on va plus monter dans la boîte à requins sans abuse! C'est cheaté ce truc, c'est cheaté!
Non mais je vais même pas m'énerver, Dieu dans sa grande bonté a inventé les anxiolytiques donc. Normalement. Et puis nous avons Tintorera du sang dans la mer, alias les dents d'acier, un film mexicain de 1977 de René Cardona Jr. Eh ben les anxiolytiques, je vais pouvoir en reprendre un bon paquet parce que celui-là il est particulièrement mou. Bon, deux petites recommandations vite faites avant de partir. Tout d'abord, recommandation copinage. J'ai des potes qui sont en train de monter un jeu de plateau, un memory coopératif pour toute la famille qui s'appelle Crob. Ils ont lancé leur boîte, You Token To Me, et ils ont lancé leur premier financement sur Ulule pour Crob, donc je vous encourage à aller les voir, et je vous mettrai évidemment les liens pour accéder au Ulule sur les accompagnements du podcast. Dans le domaine du cinéma et du cinéma coréen plus particulièrement, je vous encourage à jeter un œil sur les conférences qui sont données à l'heure actuelle par cinémacoréen.fr, animées entre autres par Célia, une des fidèles de l'émission, et ils sont en ce moment en train d'animer, en coopération avec le cinéma parisien, le Forum des Images, toute une série de conférences sur Zoom, revenant sur des réalisateurs, sur des périodes de l'histoire du cinéma coréen, et on découvre pas mal de choses, c'est très intéressant. Là encore, je vous mets les liens en référence. Voilà, alors où est-ce qu'on peut se retrouver? Eh bien, sur Nanarland, sur les podcasts Nanarland, et sur Twitter, @TheUltimateRico, pour revenir un petit peu sur le podcast et sur mes pensées hautement intéressantes et hautement cinéphiliques, vous vous en doutez bien. Voilà, on se retrouve sous peu pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.